Eh bien, à continuation, on a le plaisir de recevoir Stéphanie Diane Dossi d'abord les dames, et puis après Arnaud Timbert. Stéphanie Diane Dossi est membre de notre équipe Templa. Donc, ça fait vraiment un grand plaisir pour nous de l'avoir ici entre nous aujourd'hui. Et je vous expose quelques-unes de ses mérites que vous pouvez voir ici. Ils ont tous les deux travaillé les cathédrales gothiques en France, notamment celles de Noyon et Amiens. Mais il y a aussi des grandes différences dans leur parcours scientifique. Par exemple, dans le cas de Diane, elle est surtout intéressée par tout ce qui a à voir avec la matérialité et immatérialité dans les édifices gothiques. Par exemple, ce qui sont les phénomènes de la lumière ou la luminosité et ce qui a à voir avec la liturgie, donc. Et dans le cas de Arnaud, tout particulièrement, les processus d'édification, donc les matériaux qui ont été utilisés, notamment le fer et le plomb. Et en ce moment, il travaille à un projet qui est très intéressant, qui verra bientôt le jour publié. Les matériaux utilisés par Viollet-le-Duc, qui sans doute va être un point de départ pour réviser tout ce qui est les travaux du patrimoine. Merci beaucoup d'être ici avec nous.
Merci Isabelle. Oui. Merci. Alors, pour suivre Mathieu dans la même lignée, en définitive, le paysage architectural de la France du Nord, balayé par la réception enthousiaste des procédés et des formes gothiques, est difficilement assimilable au grand temps de la période romane. Que sait-on, en effet, des cathédrales érigées dans notre région durant les Xe et XIe siècles et parfois même au cours du XIIe siècle? Lorsque l'archéologie, comme à Reims par exemple, ne vient pas en aide aux chercheurs, et c'est le cas à Noyon, forcé d'admettre que nos connaissances sont rares, voire inexistantes. Pourtant, souvent, la cathédrale gothique garde dans ses matériaux, ses formes, ses espaces et son décor, la survivance et l'empreinte de l'édifice antérieur. La cathédrale de Noyon, bâtie à partir de 1145, est représentative de cette réalité médiévale. Si les textes et les fouilles archéologiques effectuées durant les années 1920 nous apportent quelques renseignements sur la configuration des églises des Xe et XIe siècles, c'est le monument gothique lui-même, sollicité comme document immédiat qui témoigne le mieux des cathédrales qu'il a supplantées depuis la construction carolingienne. Noyon se situait à l'orée d'une région, le Soissonnais-Célantois, où s'était jouée la légitimité carolingienne. La ville était aussi à mi-chemin entre les cités royales de Quierzy et de Compiègne, ce qui explique en partie que Charlemagne fut sacré roi des Francs en 768. Aussi n'est-il pas surprenant de voir que la cathédrale du premier gothique, incluant ses espaces, son système lumineux, son iconographie, renvoie à la tradition carolingienne. Dans la redite de ce passé formel, imprimé comme par sigilance jusque dans les détails du bâtiment, il est possible que l'évêque ait souhaité réfléchir les dispositions carolingiennes antérieures noyonnaises, auquel cas la question se pose d'une reconstruction intermédiaire au XIe siècle. Cette période fut-elle celle d'une reprise des bâtiments existants, localisés à l'emplacement des constructions des XIIe et XIIIe siècles et comprenant une église aux proportions limitées par l'ancien rempart gallo-romain, un cloître au nord et un palais épiscopal et l'oratoire Saint-Benoît au sud, ou, au contraire, une cathédrale romane fut-elle construite sur un mode qui laisse envisager dans ce cas la pérennité de choix antérieurs, ceci étant repris dans la construction du XIIe siècle. Quelle légitimité donc pour l'hypothèse d'une cathédrale romane, ainsi qu'à Notre-Dame de la Basse-Œuvre de Beauvais, ou encore à Senlis, n'a-t-on pas au contraire à Noyon une survivance attestée de type carolingien?
Je vais prendre ta place. C'est compliqué. qu'on change 10 fois comme ça. Donc on a le droit à plus de temps. Ce sont les textes qui nous renseignent sur les édifices antérieurs à l'actuelle cathédrale. 3 églises se sont succédées depuis le premier édifice bâti vers 532 par Saint Médard. Cette première église cathédrale, probablement située près du mur oriental du castrum, donc celle-ci, est altérée lors d'un incendie daté de 676 et remplacée par un nouveau monument, celui dans lequel se déroula justement le couronnement de Charlemagne. Sur l'emplacement de cette église, ruinée en 859, fut élevée une troisième cathédrale mentionnée en 932. Il semblerait que celle-ci soit encore en activité en 1131 quand un incendie vient l'altérer. Comme l'a prouvé Charles Seymour, le dernier auteur de la monographie de la cathédrale de Noyon, l'étendue du sinistre de 1131 semble en effet limitée. Aussi ne faut-il pas envisager une reconstruction de l'édifice à cette époque. Tout au plus, pouvons-nous envisager quelques réfections ou modernisations, comme en témoigne une base retrouvée en fouille dans les années 1920 et pouvant être datée des années 1130. Il faut donc attendre les années 1145-1150 pour que la cathédrale carolingienne soit reconstruite au profit de la cathédrale actuelle. Cette dernière cathédrale, par le choix de ses espaces, notamment un transept continu à extrémité hémicirculaire ici et un transept continu ici en façade, ainsi que le parti de son élévation à empilement de niveaux percé de baies en plein cintre, cette cathédrale semble témoigner de la reproduction dans l'édifice gothique d'écritures, d'espaces et de rythmes inspirés de la cathédrale antérieure. L'élévation des travées du massif de façade sur celle de la nef offre un espace ample et lumineux qui résulte d'une histoire encore floue. Quelques édifices de la première moitié du IXe siècle peuvent être convoqués, comme la cathédrale de Reims ou encore Saint-Médard de Soissons, mais pour ces deux monuments, plusieurs inconnus subsistent pour l'élévation. La tradition du transept occidental continue, établi à même hauteur que la nef, est plus évident dans l'architecture carolingienne, notamment à Fulda, et dans l'architecture ottonienne de l'extrême fin du Xe siècle, début du XIe siècle, à Cologne, Liège, Augsbourg, ou encore à la cathédrale de Ratisbonne, où, pour ce dernier exemple, comme à Noyon, le transept occidental est non saillant. Les mutations liturgiques et l'abandon de l'abside occidentale ne semble pas avoir provoqué un abandon simultané et définitif du transept qui lui était adjoint. Le transept occidental, isolé, perdure en effet durant l'ensemble du XIIe siècle en Angleterre, à Bury, Ely, Peterborough notamment, ainsi qu'en France, dans une région cependant très limitée, puisque limitée à la Picardie, à Saint-Germain-de-Fly, Mont-Notre-Dame, Vassy et à la cathédrale d'Arras ou encore à l'abbaye Saint-Éloi de Noyon. Comme l'a envisagé Mac Allire, la suppression du chœur occidental n'est peut-être pas étrangère à la mutation du transept de façade vers un usage d'espace d'accueil, fonction attestée à Noyon, ne serait-ce que pour le porche. Témoin d'un pôle liturgique, ce transept aurait muté en espace fonctionnel, tout en perpétuant l'habitude visuelle d'une mise en valeur de l'extrémité occidentale du lieu. Quoi qu'il en soit, l'absence de tels transepts occidentaux dans l'architecture gothique de la France du Nord, en dehors des quelques exemples mentionnés, semble témoigner d'une tradition spatiale ancienne et, qui plus est, particulière à l'archevêché de Reims. Le cas du transept hémicirculaire ouvrant sur le sanctuaire invite à des propos similaires. Les exemples les plus anciens de transepts hémicirculaires remontent à l'an 1000 avec le transept de l'église ottonienne de Wessen. Plus tard, à la fin du Xe, début du XIe siècle, nous pouvons également mentionner les transepts hémicirculaires de Saint-Germain-des-Prés d'une part et de l'abbaye Saint-Lucien de Beauvais d'autre part. Notons par ailleurs que ce type de tracé est particulièrement présent en terre d'Empire et sur ses marges, comme en témoignent les exemples de Sainte-Marie du Capitole, des cathédrales de Tournai, Cambrai et Soissons. Le transept de Noyon prend ainsi place dans un paysage fortement marqué par ce motif. Toutefois, outre le caractère fonctionnel de ce transept associé à deux portails, le portail Saint-Eutrope ici, le portail Saint-Pierre à l'opposé au nord, contrairement aux exemples mentionnés de Cambrai, Soissons par exemple, eh bien, ce transept de Noyon ne possède pas de tribune, non plus que de chapelle orientée. L'absence de chapelle orientée, l'absence de tribune et une implantation délicate des portails à l'aisselle du chevet et des bras du transept rend la justification du plan délicate, à moins, encore une fois, qu'il ne s'agisse ici de la citation d'un volume antérieur. À cet égard, au-delà des volumes et des espaces, l'écriture du monument peut nous éclairer. Le choix d'une écriture usant d'abondance du plein cintre isole le monument, la cathédrale de Noyon, dans le paysage monumental du XIIe siècle septentrional. Dans la nef, au-dessus d'un triforium doté d'arcatures en plein cintre, se déploient des baies sommitales composées de baies géminées en plein cintre, ce qui n'a rien d'exceptionnel si elles n'étaient circonscrites d'un arc formerait de même tracé. Ce type d'écriture est totalement abandonné en cette seconde moitié du XIIe siècle. Il renvoie aux tribunes de Saint-Cyriaque de Gênerode, aux baies de la façade occidentale de Saint-Gertrude de Nivelles, à celles de l'église haute de Corvey, aux tours de chevet de Verdun ou encore aux arcades des tribunes de la nef de Montirandère. Le tracé des baies hautes de Noyon, atypique pour les années 1160, ancre irrémédiablement la cathédrale dans une esthétique ancienne. Une observation extérieure de l'édifice, duquel il faut supprimer les arcs-boutants ainsi que les chapelles basses ici implantées au XIVe siècle, dévoile une silhouette à étagement de volume et de masse marquée par une prédominance du plein cintre, qui n'a rien de gothique mais renvoie à une esthétique architecturale puisant dans l'architecture ottonienne. D'ailleurs, le choix d'une galerie à hauteur extérieure des fenêtres hautes n'est pas sans rappeler, même de manière assez lointaine, le parti de la cathédrale de Spire. Enfin, l'alternance binaire des supports intérieurs de la nef ne résulte pas, comme il a été prouvé il y a peu, d'un emploi de la voûte sextpartite. Bien au contraire, cette alternance est choisie alors qu'elle est abandonnée partout ailleurs dans les réalisations contemporaines de Paris, Laon ou Cambrai. Cette rythmique semble plutôt relever d'une plastique fondée sur un archaïsme intentionnel en harmonie avec le caractère désuet de l'écriture architecturale. La cathédrale gothique semble ainsi reproduire des espaces, une écriture et des rythmes qui caractérisaient la cathédrale antérieure. De tels exemples comparatifs ne sont pas rares, mais n'atteignent pas le degré de reproduction de la cathédrale de Noyon. Ici, le phénomène ne se limite pas à la citation d'un élément isolé, le plan ou l'élévation, mais laisse envisager une sigilance généralisée à l'ensemble et notamment aux images et à la liturgie.
À Noyon en particulier, ici dans le chevet, la minceur des supports du rond-point, les larges ouvertures vers les chapelles rayonnantes qui sont abondamment dotées de baies, les tribunes ouvertes et l'étage des fenêtres hautes dotent l'Orient d'une vive lumière. L'accent ainsi mis sur le projet lumineux du sanctuaire renvoie bien sûr à pléthore d'exemples du XIIe siècle. Cet espace lumineux annonce le paradis terrestre ainsi que l'abside de la grande abbatiale de Cluny-Trois, dont il nous reste bien entendu les chapiteaux du plein champ que Lévi de Saint-Hugues nomme le Deambulatorum Angelorum. Cette lumière s'associe à Noyon comme à Cluny-Trois au chant sacré de la liturgie, fait attester dès avant cela dans les textes carolingiens tels que la chronique de l'abbaye de Saint-Riquier du moine Ariulfe. On y lit en effet que le moine Hugues, dont le second quart du Xe siècle, alors qu'il était assis dans les stalles, avait été interpellé par une mélodie émanant du Westwerk et, levant les yeux vers ce lieu, sanctifié par la présence des anges, vit une lumière qui de là se répandit dans l'ensemble de l'édifice. Ainsi, anges, lumière et musique sont-ils associés, et les jeunes choristes, à Cluny, comme à Noyon, chantent depuis les tribunes, symbolisant le cœur angélique, répondant en miroir au cœur des chanoines. Leur présence est d'ailleurs symbolisée à Noyon par les anges qui sont sculptés contre la paroi des premières travées tournantes nord et sud des tribunes du chœur, et peut-être par les têtes insérées entre les ogives des voûtes de la tribune vers 1185, qui, bien qu'appartenant à un décor traditionnel au XIIe et XIIIe siècle, montrent une individualisation des traits et une jeunesse qui, à l'exception d'un seul visage, laisse supposer la figuration, peut-être, d'enfants de chœur. Le programme angélologique de la tribune du chœur est en outre affirmé par sa chapelle axiale, dédiée à Saint-Michel, ainsi que nombre de chapelles hautes, également de tradition carolingienne. Enfin, l'existence même de ces tribunes au flanc du chœur relève sans doute d'une tradition carolingienne, où de tels espaces consacrés aux chanteurs étaient accoutumés. La question se pose en outre aussi pour le portail du bras nord du transept, anciennement appelé, avant le vocable de Saint-Pierre, de portail des siffleurs, qui aurait jadis porté des sculptures de musiciens et qui, justement, jouxte la petite porte d'accès à l'escalier qui mène aux tribunes du chœur. Détachés ici, dans ces tribunes, les pueries permettaient de les placer à proximité du chœur des chanoines. En outre, le chant noyonné semble pouvoir directement renvoyer à l'origine carolingienne du plein chant, en particulier au répertoire grégorien. Bien que l'obituaire de la cathédrale ait disparu, des extraits en sont connus qui nous renseignent sur cette question. Nous savons notamment, grâce à une transcription du chanoine Levasseur datée de 1633, que ses devanciers ont toujours fort estimé un beau chant grégorien, un chant grave et distinct, un chant honnête et modeste, elle a toujours été la musique de Noyon. De là est le titre d'honneur donné et continué jusqu'à notre Église, d'être bien chanté. Voilà l'ancienne manière de chanter en l'Église, introduite partout selon la réformation de Charlemagne, longtemps observée et gardée en l'Église de Noyon si exactement et avec tant d'ordre et de soin qu'elle a donné lieu au proverbe « Noyon bien chanté, Noyon bien sonné ». Dès lors, Levasseur précise que Charlemagne, alors qu'il envoya ses députés réformer le chant trop léger de messieurs de Metz, fut à croire que ce fut en suivant l'ordre établi de notre psalmodie, quoique Sigbert semble dire qu'il a accompli la dite réforme par l'entremise des chantres envoyés de Rome par le pape Adrien. Mais il doit plutôt être entendu qu'il les réforme par ses envoyés ou commissaires de la cathédrale de Noyon, suivant les règles apportées de Rome par les dix chantres du Saint-Cierge apostolique. Ainsi, son fils Louis le Débonnaire, en 830, ayant appris le nouveau déchet de l'Église tant pour les mœurs que pour les chants, pour établir toutes choses en leur entier, nomma et députa Rangarius, 34e évêque de Noyon, pour aller mettre la réforme, Aix-Église, d'Amiens, Thérouanne et Cambrai. Nous sommes alors en pleine réforme liturgique carolingienne et le sacramentaire grégorien de type Adrianum est l'outil de la réunification liturgique de l'Empire. Le rite romain est imposé comme facteur d'unité dans l'Occident latin et le répertoire grégorien sert la politique d'alliance entre la papauté et l'Empire. Le chanoine Levasseur précise alors que l'évêque devait notifier partout, y compris à Noyon, les ordonnances et capitulaires, je cite, « sur ceux dressés, avec pouvoir de les faire copier et pratiquer, de sorte que les anciens statuts de notre ordinaire sont ceux qui leur furent copiés par nos devanciers et pratiqués jusqu'à nous. » Il n'est donc pas étonnant de voir à Noyon une organisation spatiale et une iconographie qui témoignent des usages liturgiques romains. Alors donc que la papauté retrouve sa souveraineté dans le gouvernement de l'Église et décide pour ce faire d'envoyer des légats en Europe pour réorienter les usages liturgiques locaux selon les pratiques romaines, l'évêché de Noyon semble, a priori, avoir constitué un modèle du genre, en particulier pour ses mœurs, mais surtout pour ses chants. Encore un peu de temps. Le programme lumineux et angélologique du sanctuaire, associé à la place du chant sacré, renvoie donc aux usages liturgiques romano-francs. Il s'associe en plus à un décor qui participe activement à la liturgie, en particulier au travers de 4 clés de voûte sculptées vers 1165-1185, dont la thématique, éloignée de celle des programmes proprement gothiques, axés surtout autour du jugement dernier, renvoie à des modèles enluminés carolingiens et à des décors, en particulier monumentaux romans. L'agneau, qui orne la clé de voûte de l'abside, est en relation spatiale directe avec le sanctuaire et l'autel matutinal. Les clés de voûte des troisièmes travées des collatéraux, David au nord, Saint-Jean essuyant ses larmes au sud, et de la travée axiale du déambulatoire, le Christ bénissant, confirment la thématique eucharistique et sacrificielle du lieu en renvoyant à la révélation de Saint-Jean, chapitre 5, versets 4 et 5. David symbolise l'union de la divinité et de l'humanité du Christ, Saint-Jean incarne l'Église accablée du poids des péchés de l'humanité, priant pour la venue du Rédempteur. Il figure la Nouvelle Alliance. Ce programme est sans doute appréhensible comme une souvenance carolingienne, sachant que le commentaire de l'anglo-saxon Alcuin renouvela l'intérêt du texte des révélations de Saint Jean à la cour de Charlemagne. La présence figurée de David à Noyon n'a pas manqué de soulever la remarque sur son unicité. Et quelques enluminures tardives, des années 1255, au modèle commun, fournissent un point de comparaison substantiel. Ainsi, celle de la Pierpont Morgan Library de New York et celle de la Bodleian Library d'Oxford présentent, sur 2 niveaux de lecture, la vision de l'ouverture des portes du paradis et le Christ parmi les vieillards, associés aux figures et symboles de Noyon. Saint Jean, en pleurs, consolé par le vieillard, dont le rouleau porte l'inscription « Ne effleueris ecce vicit, Léo des tribus, Iuda radix David, aperire librum et signacula eius ». Radix David, qui est donc sculpté sur la clé du bas-côté nord du cœur, à Noyon. Mais on trouve aussi l'agneau mystique dans l'axe des pieds du Christ souffrant, ainsi qu'aux clés du rond-point et de l'axe du déambulatoire. Dans l'association de ces images du Christ agneau et du roi, les deux souverains par excellence sont en outre glorifiés en une relation qui évoque, ainsi qu'en l'évangéliaire de Godescalque, la théologie politique carolingienne qui assimilait l'un et l'autre. Ainsi se comprennent, par exemple, les deux enluminures du psautier du président Bouillet. L'assimilation bien connue du roi David et de l'empereur, notamment dans les Codex Carolinus, en particulier dans la lettre 138 d'Alcuin, qualifie bien David de Rex Imperator, ce qui n'est sans doute pas étranger au choix du thème précisément à Noyon. De même, David, qui d'ordinaire renvoie à la réalité théologique selon laquelle la musique permet l'élévation de l'âme vers les choses spirituelles, est d'autant plus à sa place à proximité d'un sanctuaire où le chant semble avoir joué le rôle que nous lui connaissons dès l'époque carolingienne et ce au moins jusqu'au XVIIe siècle, comme en témoigne le chanoine Levasseur. Le thème des anges musiciens, développé sur les vantaux de l'armoire reliquaire de Noyon, qui dès le XIVe siècle prenait place dans le chœur, témoigne sans doute de cette importance qui fut pérenne. L'analyse d'un folio, du folio 215V de la Bible de Charles le Chauve, a d'ailleurs montré que parmi les moyens offerts à Charles pour réaliser le modèle de bon roi, la musique était l'un des moyens, c'est-à-dire voix de sagesse, marque d'attitude profondément spirituelle. La réminiscence carolingienne et la portée théologique du thème paraissent donc évidentes. Blablabla. Cette iconographie noyonnaise se déploie donc sur 4 clés de voûte sculptées sur les seuls supports disponibles à proximité de l'abside et de l'autel dans le cadre d'une architecture gothique où les évidements sont tels qu'aucune surface pleine n'est susceptible d'accueillir un programme peint ainsi que dans les édifices carolingiens ou romans. Mais ne peut-on s'interroger sur le modèle immédiat de cet ensemble dans la cathédrale antérieure à la cathédrale gothique que nous avons aujourd'hui sous les yeux? Imaginez un chevet carolingien ou roman, dépourvu de chapelle rayonnante, avec abside en cul-de-four, pouvait permettre l'extension d'un même programme peint qui aurait pu être repris dans la nouvelle construction à une autre échelle et sur d'autres supports. en empruntant la voie d'une architecture aux espaces ouverts, abondamment éclairés, mettant l'accent sur le projet lumineux. Le concepteur de la nouvelle cathédrale rompt avec certains modèles, en particulier romans, mais prolonge certains principes esthétiques développés par d'autres et adapte en conséquence un décor à la thématique ancienne, mais reporté sur des éléments architectoniques gothiques réduits.
C'est pas fini. J'en ai pour une minute. On a trois couleurs en fait. On a l'orange, le rouge, il faut faire attention, et le noir, c'est vieux. Donc, pour conclure, toutes ces réminiscences spatiales, formelles et liturgiques inscrivent donc la cathédrale gothique dans la tradition et permettent d'imaginer la cathédrale du Xe siècle. Les chanoines du XIIe siècle, en prenant possession de la cathédrale actuelle, retrouvaient donc les espaces, les volumes, les rythmes et les images de leur quotidien antérieur. La cathédrale gothique accumule le temps et fait ainsi mémoire de la cathédrale carolingienne, ottonienne, révélant, au-delà du bâti, une culture visuelle ne souffrant aucune rupture historique. Merci.